lecture. La suite dans les idées. Sylvain Bromont.
L'avenir de la planète reposerait sur les enfants. De notre capacité à les sensibiliser aux questions écologiques dépendrait le futur de l'humanité et bien au-delà du vivant sur la Terre. Si le propos n'est pas tout à fait nouveau, la question du contact des enfants à la nature apparaissant depuis des siècles au centre de très nombreux discours pédagogiques, il a pris ces dernières années, à mesure de la réalisation progressive de notre condition anthropocène, une tournure plus dramatique. Mais les pratiques, ont-elles pour autant changé? Comment penser et surtout mettre en œuvre la relation des enfants à leur environnement, les sensibiliser à l'écologie, les mettre en contact avec la nature? Et qu'implique d'ailleurs le choix de chacun de ces mots, environnement, écologie, nature? Au-delà des discours, le sociologue Julien Vitorès a mené l'enquête pour saisir comment, à l'école et dans les familles, dans différents milieux sociaux, selon le genre, le lieu de résidence ou le fait d'être ou non racisé, les enfants sont aujourd'hui socialisés aux questions écologiques. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Une suite dans les idées qui s'intéressera également à la littérature en seconde partie, en écho à cette enquête sociologique avec Jean-Christophe Cavalin qui nous rejoindra. Il fait paraître en cette rentrée littéraire dans la précieuse librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil, Kong Junior, qui est son premier roman. Jean-Christophe Cavalin est par ailleurs connu pour ses essais sur l'éco-poétique de manière générale. Et ce travail résonne à bien des égards avec votre enquête, Julien Vitorès. Vous êtes sociologue, vous êtes agrégé de sciences économiques et sociales, vous enseignez à l'université Sorbonne Paris-Nord et vous publiez dans la collection L'Envers des Faits, aux éditions La Découverte, La nature à hauteur d'enfant, socialisation écologique et genèse des inégalités. Alors, c'est une enquête qui s'intéresse, qui est allée à la rencontre des enfants. J'ai l'impression que c'est un phénomène relativement nouveau en tous les cas. On a vu paraître ces dernières années en France des enquêtes qui s'intéressaient aux enfants, comme si la sociologie, au fond, on avait assez de laisser tout ça à la psychologie et aux sciences de l'éducation, Julien Vitorès.
Oui, effectivement, il y a un regain d'intérêt ces dernières années pour la sociologie de l'enfance ou les sciences sociales de l'enfance plus largement. Ce qui n'est pas complètement nouveau dans le monde anglo-saxon, par exemple, où les childhood studies sont, j'allais dire, depuis les années 90, se sont bien installés dans le champ scientifique, que ce soit en sociologie ou en anthropologie. D'une certaine manière, j'espère que mon enquête participe effectivement à ce mouvement de redécouverte.
On peut citer les noms de Wilfried Ligné, de Julie Pagis en particulier, auxquels vous...
Pour expliquer un petit peu la genèse de l'enquête, d'ailleurs, je peux tout à fait revenir à ça, c'est que j'ai commencé par suivre le séminaire de Wilfried Ligné et Julie Pagis, sciences sociales de l'enfance à l'EHESS. Et c'est ce qui a attisé ma curiosité pour ces questions, pour ces questions de socialisation, de sociogenèse des dispositions et des manières d'être. Et dans ce contexte-là, j'ai commencé par travailler avec Wilfried Ligné sur la question des visites aux zoos, qui est une sorte d'incontournable de l'enfance.
Justement. Et sur la question de quel est votre animal préféré.
Exactement, les animaux préférés des enfants, que ce soit les gorilles, les grands singes ou d'autres, les fauves qui pouvaient être vus aux zoos. Et dans ce contexte, il y avait un élément qui revenait souvent. Les parents en sortie de zoo, quand je les interrogeais sur leur propre motivation pour venir amener leurs enfants, beaucoup expliquaient vouloir faire découvrir la nature à leurs enfants, en particulier aux jeunes enfants urbains, etc. Et c'est par ailleurs une période où l'effervescence pédagogique autour de ces vertus du contact avec la nature on en entendait beaucoup parler dans les médias, etc. Et donc les deux, ces deux éléments combinés m'ont motivé à mener l'enquête sur ces sujets.
Cette enquête. Alors c'est une enquête, vous le rappeliez à l'instant, qui intervient dans un contexte particulier, faussement nouveau, parce que vous le rappelez d'ailleurs de Jean-Jacques Rousseau à la pédagogie Freinet, la question de l'environnement ou de l'écologie est omniprésente en fait dans les réflexions pédagogiques, mais néanmoins on est tous dans une situation dans laquelle on perçoit certains enjeux avec davantage d'acuité probablement qu'il y a 15 ou 20 20 ans, liée au dérèglement climatique, à beaucoup d'autres choses, à la disparition de la biodiversité. Et tout ça n'est pas sans effet sur les discours des enseignants, des parents, et évidemment donc, du coup, des enfants. Comment vous avez été amené alors à essayer, de, dans ce contexte particulier, de saisir ces façons dont les enfants sont mis en contact avec la nature, on met des guillemets, quel dispositif d'enquête vous avez inventé ?
Alors le dispositif d'enquête, il a commencé par s'orienter vers le contexte scolaire, parce que c'était ce qui me permettait, pour commencer justement, d'avoir accès à des expériences enfantines de manière un peu régulière, de pouvoir suivre des enfants dans leur quotidien, et en particulier dans des écoles maternelles pour suivre les enfants à de jeunes âges, entre 3 et 6 ans. J'ai commencé par mener l'enquête dans une école du nord de Paris, qui avait pour particularité d'être assez mixte socialement en termes de composition sociale des parents, des enfants de l'école.
Une école REP, comme on dit,
donc d'éducation prioritaire.
Dotée de moyens supplémentaires, un petit peu,
oui.
Parce que son recrutement est socialement très varié.
Ce qui précisément permet à cette école d'organiser des sorties, des classes découvertes, d'avoir un jardin pédagogique à disposition pour les enfants. Et dans cette école, déjà, ça me permettait de constater, d'observer, de documenter des écarts sociaux entre les manières d'investir la nature dans le quotidien familial, puisque j'interrogeais également les parents, et dans les effets que ça avait sur le quotidien scolaire des enfants. Et j'ai ensuite cherché à comparer ça avec d'autres contextes sociaux dans d'autres écoles. Une école privée dans l'Ouest parisien, donc plutôt des enfants issus de la bourgeoisie économique, et également une école dans le sud de la France, en contexte plus rural.
Une école que vous connaissez bien.
Que je connaissais bien, parce que c'était celle où j'avais été scolarisé moi-même étant enfant. Et dans une région qui est marquée par l'agriculture viticole, où il y a plusieurs parents qui pratiquent la chasse. Donc dans un contexte où les rapports à la nature sont sensiblement différents.
Donc l'idée, c'était évidemment de faire contraster ces lieux. Qui ne sont pas que des lieux, qui sont aussi des lieux habités par des gens qui disposent de capitaux sociaux différents, et donc cela induit aussi un rapport à la nature, entre guillemets, différent. D'ailleurs, le livre, vous l'avez d'abord structuré comme ça, en choisissant de proposer aux lecteurs et aux lectrices des plongées dans chacun de ces lieux, en portant d'abord votre attention à la manière dont, dans les milieux favorisés économiquement, dans cette école en particulier de l'Ouest parisien, s'engage la relation à la nature pour les enfants telle qu'elle est proposée, parce que ça c'est très important, la façon dont elle est proposée par les parents aussi bien que par les enseignants.
Bien sûr, je commence, disons, l'enquête par, l'ouvrage, par le fait de mettre en évidence l'importance cruciale des ressources économiques, ce qui pourrait passer parfois pour quelque chose de secondaire dans l'intérêt qu'on a ou pas pour la nature, mais qui est en fait une précondition de certains types d'expériences, en tout cas, que ces enfants ont. Donc ces enfants qui, à 5 ans, ont déjà pu expérimenter des formes de nature très diverses.
Certains qui sont allés en Chine, par exemple.
Certains sont allés sur plein de continents, sur des îles, vont régulièrement à la montagne. Un père qui m'explique on achetait à la montagne pour pouvoir faire plus de ski, et cette année, son petit a pu faire 30 jours de ski à la montagne. Mais il a également l'occasion l'été d'aller en bord de mer. Bref, toutes ces expériences de certains espaces qui semblent être des espaces canoniques de la nature à hauteur d'enfant, découvrir la mer, la montagne, les promenades en forêt.
Une nature vaste, une nature grandiose aussi.
Une nature qui est perçue, présentée aussi comme grandiose, et dont un des enjeux pour ses parents est aussi de faire découvrir pour leurs enfants, j'allais dire, la beauté et l'amplitude du monde qui les entoure, mais aussi parfois de s'y confronter. Dès 4-5 ans, certains parents mettent l'accent sur l'importance pour leurs enfants de découvrir le goût de l'effort au contact d'une nature qui leur résiste. Par exemple, en faisant des randonnées qui peuvent être parfois très exigeantes pour des enfants de 4 ou 5 ans, mais que ces parents valorisent précisément pour ces raisons-là.
Les enfants aussi sont ce qu'ils sont dans ces écoles-là. Je disais tout à l'heure, certains vous racontent leur voyage en Chine. En tous les cas, ils ont une capacité, pour beaucoup d'entre eux, à comprendre ce que vous faites là.
Oui, ça c'est intéressant sur le plan méthodologique, effectivement. C'est que quand on mène l'enquête à hauteur d'enfant, on a l'occasion, en tout cas moi en tant qu'enquêteur, j'ai eu l'occasion de me retrouver assis sur les bancs de l'école pendant des journées entières avec les enfants, de les accompagner lors de sorties, de devenir une sorte de personnage un peu atypique de leur quotidien. Ah, pourquoi t'es là aujourd'hui? Pourquoi t'étais pas là hier? Etc. Et évidemment, les enfants sont curieux et cherchent à comprendre ce que je fais là. Donc, j'avais donné une explication le premier jour. Je m'intéresse à la nature et aux enfants et à ce que les enfants font dans la nature. Puis, quand ils me redemandaient, je disais juste, je viens voir comment ça se passe à l'école. Mais certains ont accroché en quelque sorte à ce terme de nature et le comprenaient mieux que les autres. Et au quotidien, pouvaient en quelque sorte se distinguer en me racontant des expériences rares, comme ce voyage en Chine ou comme des expériences en forêt, juste simplement me racontant leur week-end et en ayant bien conscience que, en me disant ça, j'allais le noter dans mon carnet. Et ça devenait une préoccupation pour eux ensuite de savoir.
Ils savaient que c'était un matériau potentiellement intéressant.
Exactement. Ils avaient compris ce qu'il y avait, à mes yeux, implicitement de la valeur.
Alors ça, c'est un premier coup de zoom sur un idéal type au fond, parce mm-hmm. qu'on peut les penser comme ça, ces situations. Le deuxième concerne cette école assez mixte socialement, dans laquelle on retrouve des familles qui disposent de forts capitaux culturels, des gens qui travaillent dans les professions intellectuelles par exemple, et puis des catégories populaires. Et des gens qui vivent aussi dans une partie de la ville dans laquelle la nature est autrement présente que celle de l'Ouest parisien, par exemple, Julien Vitorès.
Oui, j'essaye de montrer que si évidemment cette question du capital économique elle a de l'importance parce qu'elle structure ce qu'il est possible ou non d'expérimenter à certains âges, il faudrait pas invisibiliser le fait que le capital culturel que détiennent les parents a également un rôle important, non seulement pour comprendre la manière dont la nature est appréhendée par les parents eux-mêmes, la manière dont ils lui confèrent de la valeur à certaines de ses dimensions esthétiques, éducatives précisément, qu'est-ce qui fait l'intérêt ou non de savoir des choses sur la nature et par quels moyens les enfants font ces premiers apprentissages. Mais c'est également quelque chose qui devient en quelque sorte un capital culturel pour les enfants eux-mêmes, puisque c'est toute une série d'expériences et de connaissances qui, quand ils arrivent à l'école, les distinguent et les font, comment dire, ce sont des enfants qui sont souvent perçus par les enseignants et les enseignantes comme stimulés, éveillés, ayant beaucoup de choses à raconter, mais également des choses qui ont de la valeur dans le monde scolaire.
Alors ces choses qu'ils ont racontées et qui ont trait à la nature, elles interviennent aussi dans un contexte particulier, celui dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire d'une attention accrue peut-être à l'écologie. Et donc dans ces quartiers-là, où il n'y a pas de grands parcs comme il peut y en avoir dans d'autres quartiers de la ville, il y a désormais des plantes adventices qu'on laisse pousser au pied des arbres parce que la politique de la nature de la ville a changé. Et donc la nature, c'est aussi pour ces parents-là, la fleur qui pousse dans l'interstice de béton.
Bien sûr, il y a une valorisation assez explicite et parfois qui s'oppose par contraste à l'idée que la nature serait nécessairement cette nature grandiose des grands espaces, la nature sauvage, mais que la nature du quotidien, la nature en ville, c'est aussi un moyen pour ces parents d'éveiller le regard de leurs enfants, leur attention. Souvent avec comme vous le disiez, une sensibilité écologique et l'idée que les petites choses du quotidien, les petits gestes du quotidien, les questions d'alimentation également, sont autant de moyens de discuter très précocement avec les enfants de ces enjeux écologiques.
Alors dans ce même lieu, qui est d'une grande mixité sociale, la même situation ne produit pas les mêmes socialisations dans la mesure où d'autres parents qui n'ont pas ce capital culturel, qui n'ont pas cette relation eux-mêmes à l'écologie peut-être, ne se trouvent pas engagés à parler de ces choses avec leurs enfants de la même façon. Ça, vous le voyez dans cette même école, en fait.
Oui, c'est notamment le cas des familles des classes populaires les plus précaires, qui résident dans des logements sociaux à proximité de l'école. Pour beaucoup, la question de la nature et de l'accès à des espaces grandioses lointains, elle se pose presque pas, tant ça paraît justement trop loin, trop coûteux, trop distant de leurs préoccupations quotidiennes, qui est marquée justement par cette expérience de la précarité. Pour autant, il y a quand même une attention à ce que les enfants puissent aller dehors, puissent passer du temps dehors. Et c'est notamment ce qui explique l'appropriation qui est faite des parcs ou des squares à proximité de leur domicile. Quant aux questions plus spécifiquement éducatives ou à la question de l'écologie dans leur quotidien, là aussi, elle est souvent identifiée comme une norme scolaire. Il ne faudrait pas caricaturer le rapport des classes populaires à l'écologie. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement inconnu. Ça fait suffisamment longtemps que c'est devenu une norme commune et diffusée dans plein de, à la fois dans les dessins animés des enfants qui regardent à la télé, etc., et par l'école. Mais c'est encore identifié dans beaucoup de familles comme quelque chose d'extérieur dont en fait, je sens bien dans les entretiens que les parents aimeraient bien en faire plus. Et se sentent, bah, parfois, je les sens culpabilisés de me dire qu'ils n'ont pas le temps ou pas l'occasion d'amener leurs enfants dehors, de leur faire découvrir. Et c'est la même chose un peu sur les questions plus spécifiquement écologiques, où on sent un petit malaise à dire que non, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, c'est pas encore un sujet dont on a eu l'occasion de discuter avec les enfants.
Le malaise, ça peut aussi être celui de l'enseignant ou de l'enseignante qui, face à l'expression d'inégalité sociale très forte, peut se trouver en difficulté. Il y a une scène que vous racontez d'une enseignante qui fait entendre un bruit à une classe et un élève dit entendre une chasse d'eau. Et c'est le bruit de la mer et ce qui lui vaut des moqueries de ses camarades. Situation d'une grande violence, en fait, symbolique.
Oui, c'est une de ces situations. Alors, elle est assez archétypale, mais il y a plein d'autres petits moments comme ça où les enfants qui ont eu moins d'expérience ou des expérience perçue comme moins riche du point de vue de ce qui fait les attentes ou tout simplement de ce qui est au cœur des activités scolaires, les sujets dont on parle, et voilà, ces activités qui parlent des éléments naturels. Certains enfants se retrouvent démunis, et là, ce garçon, très, très clairement, se sent un peu humilié de la situation où ses camarades rient de sa réponse. Avec en même temps, c'est un garçon qui, par ailleurs, dans plein d'autres situations, essaye de jouer de ce... J'allais dire de ces réponses un peu décalées parfois en surjouant la blague ou l'humour scatologique, etc.
On parle d'enfants de 5 ans, rappelons-le.
Bien sûr, oui. Mais à 5 ans déjà, l'expérience répétée de certaines formes de violence symbolique, le fait de se sentir tout le temps corrigé, repris par ses camarades et par le corps enseignant, ça peut, j'allais dire, construire une carrière d'élèves un peu... à l'écart des attentes scolaires qui surjouent parfois la distance, par l'humour, par le fait de ne pas complètement respecter les règles dans les moments de sortie, etc.
Troisième lieu d'enquête, c'est cette école que donc vous connaissez bien pour y avoir passé une partie de votre scolarité et dans laquelle vous avez choisi de revenir, ce qui vous a facilité certaines choses. À quoi ressemble-t-elle et pourquoi vous intéressait-elle ?
Alors déjà, c'est une école qui a un espace extérieur plus grand et plus végétalisé que les écoles parisiennes, où donc la question de la sortie en nature est moins importante, même s'il y a aussi des sorties dans la nature accessibles aux alentours. C'est une école où les enfants viennent de familles qui souvent ont des expériences de la nature, par exemple dans le monde agricole ou dans le milieu de la chasse, qui sont assez différentes de celles que j'avais pu observer en contexte parisien. Et en même temps, c'est une école dans laquelle on observe là aussi des contrastes sociaux parfois en interne entre des familles de classe populaire qui localement ont aussi des usages qui sont parfois moins centrés sur les aspects éducatifs de la nature, mais qui vont en faire des usages utilitaires, simplement faire la promenade pour ramasser des champignons ou transmettre aux enfants des rapports à la nature comme amener ses enfants à la pêche ou autre, sans nécessairement valoriser tout autant cette question du contact avec une nature qui serait idéalisée dans la mesure où elle est d'une certaine manière banalisée par son omniprésence. Et ça, c'est particulièrement, je le perçois de manière particulièrement saillante dans un entretien que je mène avec un père qui est technicien forestier, lui-même chasseur, qui passe son temps en forêt dans la semaine et qui me dit, nous, le week-end, la promenade en forêt, c'est vraiment si on a des amis qui viennent, sinon on reste à la maison, on a ce qu'il faut dans le jardin, etc. Et qui, quand je lui demande, mais qu'est-ce que ça apporte pour vous et pour vos enfants d'aller dans la nature ? Il me regarde avec un regard un peu espiègle et il dit, le contact avec l'herbe. Mais on sent bien que là, il est en train de se moquer hein, de ce qui de l'image qu'il a des classes supérieures parisiennes. D'ailleurs, lui-même me parle à un moment de ce qu'il appelle les poètes et les géomètres, donc les gens dotés en capital scientifique ou en capital culturel plus largement, qui portent, selon lui, un regard idéalisé sur cette nature qui l'environne.
Alors on voit que l'environnement, au sens propre, joue un rôle important, mais qui ne suffit certainement pas à proposer de se saisir, au fond, et de s'habituer, de s'accoutumer à la nature. On connaît tous des situations comme, par exemple, des gens du monde rural qui habitent au bord de la mer et pour lesquels aller à la plage, dans tous les cas, dans les générations antérieures, n'était absolument pas une évidence, en fait.
Bien sûr. Oui, c'est aussi une manière de remettre en question des lieux communs qui pourraient paraître parfois évidents, c'est-à-dire cette idée qu'à être proche de la nature, on l'investit forcément plus, ou on a une affection particulière pour ses charmes, ses beautés, etc. D'une certaine manière, il y a des manières très spécifiques de l'apprécier dans ces contextes-là, mais qui ne prend pas toujours la forme de l'intérêt justement scientifique ou esthétique pour une nature que l'on contemple. C'est plutôt une nature dans laquelle on vit et avec laquelle on fait des choses. Voilà. Et ça me permet aussi, je crois, d'amener la discussion, j'espère, sur cette question du contact des enfants avec la nature, qui est un terme qui est très présent dans la littérature pédagogique, justement, sur ce qu'il faudrait faire pour rendre...
Il suffirait de mettre les enfants en contact et, par magie, tout opérerait.
Il y a cette idée que c'est le contact répété, récurrent avec la nature qui permettrait de rendre les enfants plus attentifs, plus sensibles. En fait, je pense que cette notion de contact, elle mérite d'être interrogée, parce que c'est toujours quel contact, pour quels usages, pour quelle perception, pour quelle appréhension de ce qu'on peut faire ou pas faire avec la nature, quels sont les usages qui sont définis comme légitimes ou illégitimes, et ça c'est très variable selon les contextes. Et du coup, il me semble qu'à se contenter d'une certaine manière de valoriser le contact, on peut en partie dépolitiser ou neutraliser ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les types de rapports au monde qu'on cherche à valoriser auprès des enfants.
Alors, parenthèse, toutes les pédagogies ne se valent pas de ce point de vue-là, et notamment par rapport à la question de la définition de la nature, entre guillemets. À un moment dans votre livre, vous rappelez que dans la pédagogie Freinet en particulier, il y a une attention portée à l'ensemble, à la globalité de la situation, et lorsqu'on organise une sortie à l'extérieur de l'école avec les élèves, on fait en sorte que leur attention se porte sur des choses qui relèvent de la nature, entre guillemets, mais aussi sur l'activité humaine qui la traverse, par exemple.
Bien sûr, je pense qu'en tout cas, c'est une idée qui me semble intéressante, de pas rigidifier d'une certaine manière l'opposition entre nature et culture dans la manière dont on transmet cet intérêt pour l'écologie ou la réflexion sur l'environnement et ce qui compose les milieux dans lesquels on vit. Pour précisément, alors sous quelle forme, là moi je ne suis pas spécialiste de sciences de l'éducation, je ne suis pas enseignant, donc je laisse aux experts la réflexion ensuite sur les solutions à apporter. Mais en tout cas, essayer de faire en sorte de proposer une éducation à l'environnement qui n'exacerbe pas les oppositions entre les environnements dits naturels et les environnements culturels, sociaux, urbains ou les environnements hybrides, comme précisément le sont souvent les espaces de campagne, etc.
Alors vous êtes efforcé aussi dans cette enquête, Julien Vitorès, La nature à hauteur d'enfant, donc qui paraît à la découverte, de saisir le capital écologique, au fond, dont disposent déjà des enfants de 3 à 6 ans. Et pour le faire, vous êtes passé par la forme de la conversation, de l'entretien avec eux, informel, dans les écoles, mais aussi par la forme du dessin.
Oui, c'est assez classiquement, en sociologie de l'enfance, il y a cette idée que c'est parfois plus compliqué de faire parler les enfants, ou en tout cas d'avoir des discussions longues et approfondies alors qu'ils sont encore en train de commencer à maîtriser le langage, et que du coup il faut parfois trouver des détours méthodologiques pour les faire parler, les intéresser au sujet dont on aimerait les faire parler, justement. Et j'ai mis en place deux types d'activités un peu originales pour essayer de susciter des interactions avec les enfants. C'est des dessins où je leur ai demandé, donc dans toutes les écoles, à des enfants de grande section en particulier, de me dessiner la nature, ou ce qui leur faisait penser à la nature, ce que ça leur évoquait. Et en soi, cette activité, elle est révélatrice de ces inégalités dont on parlait précédemment, parce que, en fait, l'idée même de nature, elle est très inégalement comprise ou maîtrisée par des enfants de 5 ans. entre certains enfants, l'expression récurrente, c'est les petits naturalistes en herbe, ceux qui ont justement eu l'occasion d'expérimenter des formes de nature très diversifiées, qui ont beaucoup de connaissances, sont ravis de pouvoir me dessiner la nature et justement prennent plaisir à énumérer les types d'animaux qu'ils sont capables de dessiner ou à multiplier les types d'éléments naturels dans leurs dessins. Là où d'autres enfants sont juste mal à l'aise avec la consigne, me demandent est-ce que j'ai le droit de dessiner ça, ou essayent de copier parfois intégralement le dessin de leur voisin plus à l'aise avec cette demande.
Alors, il y a l'idée aussi qu'on est dans ce moment particulier où l'écologie devient une sorte d'injonction morale aussi, qui même à certains égards chercherait à dépasser des clivages politiques. Et l'école de la République entreprend d'éduquer les enfants à cette morale, en plus des valeurs morales traditionnelles à laquelle elle est habituée depuis au moins la Troisième République. Julien Vitorès, comment vous avez traqué au fond cette morale écologique dans les écoles maternelles aujourd'hui?
Elle est assez présente sans être omniprésente, mais parce qu'elle fait, je pense, désormais partie d'un sens commun éducatif. Et elle est contenue dans les programmes, hein. D'ailleurs, les programmes d'éducation au développement durable depuis le début des années 2000 installent progressivement l'idée que la formation civique, dès le plus jeune âge, doit être une formation éco-citoyenne, donc l'apprentissage de petits gestes, d'une attitude individuelle qui soit respectueuse donc vis-à-vis de l'environnement naturel et au-delà. Cette attitude, elle se traduit par plein d'activités dans le contexte scolaire. Ça peut être ramasser des déchets, juste respecter les plantes et les animaux lors des sorties, savoir se tenir en fait dans les sorties dans les espaces naturels. Et ça peut évidemment se traduire aussi par des formes de violence sur des enfants qui sont moins familiarisés à ces usages, qui se sentent moins à l'aise dans les espaces qu'on les amène à fréquenter. Et qui sont là aussi sans cesse repris pour leur manquement ou leur mauvais comportement, tel qu'il est perçu en tout cas par les enseignants et enseignantes.
Alors, votre enquête est d'une grande richesse. Le temps passe, on aura peu de temps pour aborder la question du genre, mais elle est quand même très importante, parce qu'il y a l'idée reçue sur laquelle, au fond, dès qu'on parle de nature, finalement, peu importe que ce soit des filles ou des garçons, c'est un domaine qui serait relativement neutre de ce point de vue-là. Vous montrez que c'est en fait tout le contraire, Julien Vitorès.
Oui, il y a parfois cette idée que la nature pourrait neutraliser, en gros, les oppositions un peu stéréotypées entre le rose et le bleu, et que le vert vient
puisque
de
c'est vert, voilà.
Rire ces oppositions. Mais dès qu'on rentre un peu dans l'observation de ce que les enfants font avec la nature, on voit bien que les pratiques de nature peuvent être très différenciées selon le genre, qu'il y a des manières de valoriser plus ou moins, par exemple, l'appropriation de la nature par des outils, par la technique, et qui est, dès le plus jeune âge, quelque chose que les jeunes garçons s'approprient plus volontiers, et qu'ils le font souvent par référence aux activités qu'ils voient leur père ou les modèles culturels plus largement investir par ailleurs. Là où des attitudes plus portées sur le soin aux êtres sensibles à la nature et aux animaux en particulier sont plus souvent mises en avant par les filles. Et on voit, je crois, dans l'enquête, comment ces différentes manières d'être genrées se construisent aussi dans les interactions entre enfants, parfois par des formes de distinction de genre, où les filles travaillent...
À propos de questions écologiques.
Voilà, où les filles travaillent à être différentes des garçons, ou à condamner la manière dont se comportent les garçons, ou à l'inverse, les garçons peuvent se moquer de certaines attitudes jugées trop sensibles des filles.
Et puis, c'est aussi cette enquête l'occasion de faire un peu d'intersectionnalité, comme on dit, et c'est pas un gros mot, c'est juste un concept qui est bien utile aux sciences sociales, et de montrer comment cette variable du genre interagit avec les variables sociales par lesquelles on a commencé l'émission, en fait. Mmh.
Bien sûr, il y a une claire articulation entre la question, par exemple, du genre et celle de la classe. C'est ce que je montre notamment là par la dernière méthode que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu de cartes que j'ai adressé aux enfants, enfin que j'ai fait passer aux enfants en leur demandant quels étaient leurs animaux préférés, et où on voit bien que les garçons et les filles des classes supérieures et des classes populaires n'ont pas les mêmes préférences, les mêmes goûts. Par exemple, on retrouve plus souvent par exemple, chez les filles des classes supérieures, un intérêt pour les animaux qui incarnent des valeurs esthétiques et elles sont souvent capables de les désigner par des termes très précis, en appréciant leur robe ou leur camaïeu de couleur, etc., leur forme. Et là où
C'est-à-dire que là, avec ce jeu de cartes, on retrouve la question avec laquelle on a commencé, c'est-à-dire quel est votre animal préféré, ce qui vous avait conduit à mener cette première enquête. Là, vous avez formalisé un jeu de cartes que vous avez utilisé pour essayer d'objectiver en quelque sorte les relations que ces enfants entretiennent, filles et garçons, aux animaux.
Oui.
C'est ça.
Oui, c'est ça. En leur posant des questions assez simples, hein, quel est ton animal préféré dans les animaux qui étaient présents dans le jeu de cartes, pourquoi tu l'aimes bien, est-ce que tu l'as déjà vu en vrai et dans quel contexte. Ça me permettait non seulement d'avoir du matériau qualitatif comme des petits entretiens avec les enfants, mais aussi de comparer les réponses des enfants tendanciellement, à nouveau selon leur genre et leur classe. Et c'est une méthode sociologique, hein, que j'emprunte aux travaux classiques de Boltanski et Thévenot, des sociologues qui avaient fait passer des jeux de cartes à des adultes là pour essayer appréhender leur perception de l'ordre social et leur manière de se positionner dans ce monde social. Et là, j'ai trouvé ça intéressant d'essayer de voir comment les enfants perçoivent le monde naturel et éventuellement s'y positionnent aussi implicitement en manifestant leur intérêt pour tel type d'animaux de telle ou telle manière.
Merci beaucoup, Julien Vitorès. La nature à hauteur d'enfants, socialisation écologique et genèse des inégalités. Vous restez là pour la deuxième partie de l'émission. Jean-Christophe Cavalin, qui fait paraître son premier roman Kong Junior, nous rejoint. C'est après un extrait du prochain album, il sortira le 5 septembre, de David Byrne, en avant-goût, The Avant-Garde.
Now I'm not sure how I feel about the avant-garde. Now I like the idea, the politics too, but I'm not really sure if that means that it's good. I wanna go.
Deceptively waiting, profoundly absurd. Well, it's
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Oui, c'est la suite dans les idées, c'est même le démarrage de la 27e saison aujourd'hui. Dans la rubrique actualité, on retrouvera la revue française de sociologie pour un numéro qui vient de paraître autour de la pandémie de Covid et ses conséquences sur la société. Mais avant ça, on continue cette émission consacrée au rapport à la nature, notamment des enfants. On en parlait avec Julien Vitorès à propos de son enquête « La nature à hauteur d'enfants ». Et on en parle maintenant avec vous également, Jean-Christophe Cavallin. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre animal préféré?
Certainement pas l'homme, et ma nièce et mon neveu.
Alors, je m'attendais à une réponse plus proche de votre premier roman, Kong Junior, qui paraît dans la librairie du 21e siècle au Seuil. C'est un roman dans lequel on croise la figure de King Kong comme mythologie culturelle. Ses effets aujourd'hui, dans un lieu particulier du point de vue de la nature, de l'environnement, de l'écologie, lié à la montée des eaux en particulier, qui est Venise. Comment vous avez imaginé ce dispositif, j'ai envie de dire, plutôt que cette histoire?
Il y a beaucoup de choses à l'origine d'un livre, en particulier à une image peut-être. Bon, d'abord le devenir de Venise, qui est un des espaces les plus artificialisés, bien sûr urbains artificialisés, et qui ces dernières années, pour des raisons politiques quelconques, a été éventré par des vitrines au premier étage, par du tourisme. Et en fait, ça m'a rappelé une image que j'ai achetée quand je suis arrivé à Paris, jeune étudiant, que j'avais acheté chez les bouquinistes, où on voyait un jeune hippie promenant dans Paris un singe, un gibbon agile, un petit singe, dans le quartier qui allait devenir le quartier des Halles, les nouvelles Algiscardiennes. Et donc, cette espèce de rapport élégiaque à une vie naturelle dans quelque chose qui allait devenir un temple de la marchandise, et qui rappelait bien sûr ce fameux poème de Baudelaire, Le Cygne, où il trouve, alors que Napoléon III est en train de transformer Paris en ville spectacle à la gloire de l'Empire, il trouve un cygne échappé de sa cage, etc. Et donc, Ursula Le Guin dit de La main gauche de la nuit que c'est venu d'une image de deux personnages traînant une luge dans la neige. Et cette espèce d'image d'un personnage promenant un singe dans une ville qui était en train de devenir un paradis de la marchandise, je crois que c'est venu de là. Et du coup, le livre, c'est l'histoire de ces deux hommes, l'un qui promène un pan de la Biennale, et qui essaie de sauver, d'un épisode de décompensation, quelqu'un qui promène un singe sous les formes de cendres, ce singe étant pour lui King Kong et étant pour lui son grand-père. Voilà.
Mais Venise, c'est aussi la Mostra, donc il y a un festival de cinéma, donc il y a ce film King Kong, donc il y a aussi l'histoire culturelle qui est mise en relation.
Il y a une forte histoire culturelle parce qu'en fait c'est une façon de comprendre comment l'usage des fictions, l'usage de l'imagination dans un monde contemporain a été parqué dans des productions de produits culturels, des mondes fictifs, des mondes contrefactuels, des mondes transcendants qui n'avaient plus rien à voir avec notre rapport au monde proche, alors que dans les sociétés plus traditionnelles, même jusqu'à la paysannerie française, même au début des années 20, l'imagination servait vraiment à la production du monde proche, les légendes, et surtout il n'y avait pas de différence, enfin il n'y avait pas d'apocalypse culturelle. Quand on passait de l'âge de l'enfant à l'âge de l'adulte, on avait le même rapport aux animaux, aux plantes, etc. Nous, quand on raconte des histoires à nos enfants, on les pense fausses. Alors que, et donc il faut qu'ils subissent une apocalypse pour rentrer dans l'âge adulte. Tout ce qu'on leur a appris, on leur demande de le renier. Et c'est un peu le problème de Kong Junior, cet homme qui se trimballe avec les cendres de son grand-père King Kong, qui est justement, qui est menacé de cette sorte de décompensation qui serait de vivre comme un enfant dans son monde proche, et non pas comme un adulte sécurisé par la raison, la science, la technique, etc.
Vous évoquiez la manière dont on raconte des histoires aux enfants. L'année dernière, vous avez fait paraître un livre de littérature jeunesse, les enfants de Madame O, aux éditions Albin Michel, jeunesse, avec un dessinateur, où on trouve également beaucoup d'animaux, Jean-Christophe Cavallin.
Oui, en général, le rapport à l'animalité, pour moi, c'est une ligne de démarcation qui est très intérieure. Ouais. Qui n'est pas du tout un rapport entre moi et l'animal, mais qui est vraiment moi en tant que, qu'est-ce que je fais de mon animal anthropophore, c'est-à-dire cet animal en moi qui porte un homme, difficilement parfois, vous voyez, cet homme parfois submerge dans son passé animal, ce que j'appelle l'animal antérieur. Et bien sûr, Kong Junior, c'est quelqu'un qui a un vrai problème avec son animal intérieur, qui parfois peut le submerger pour revenir dans cette espèce de contenu inconscient refoulé. Enfin, on peut employer un vocabulaire psychanalytique si on veut. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport à l'animalité, c'est que c'est aussi parce que ça se passe à Venise, dans une ville, comme vous disiez, qui est une ville qui est menacée de subsidence, hein, qui est menacée de submersion dans la mer. C'est dans une atmosphère qui est celle du livre de sourde terreur climatique. C'est aussi l'histoire de notre propre crainte de l'effondrement en tant que société complexe, qui elle aussi aurait tendance à se penser maintenant menacée par un retour dans la submersion des grandes forces naturelles. Cet effondrement, et c'est ça qui est pour moi intéressant, enfin c'était ça pour le problème que je me posais dans le livre, cet effondrement pouvant être pensé soit comme une menace de destruction de tout ce qu'on a construit, du bâti, de nos formations de défense, ou comme un espoir de libération. Parce que ce qui s'effondrerait justement serait ces formations de défense, cette artificialisation de notre vie, qui nous prive des contenus très vivants de notre inconscient, qui nous prive d'un vrai rapport au grand dehors, en un sens. Et du coup, tout le problème de Kong Junior dans cette histoire, ou de Lawrence Kissler, donc qui s'appelle Kong Junior dans le texte, c'est de savoir que faire de ces cendres. Soit les réanimer, voyez, assumer cet animal antérieur, soit les refouler et les disperser et devenir quelqu'un comme les autres, qui raisonnable, présentable et négociable dans des rapports humains quotidiens.
On parlait dans cette première émission de cette nouvelle saison de on parle de la socialisation à l'écologie des enfants. Cette socialisation, elle passe aussi beaucoup par la fiction, par les histoires. Tout à l'heure, Julien Vitorès faisait référence aux dessins animés. Même à l'école maternelle, on est soumis pas seulement à des leçons de choses ou à des cours de biologie ou d'histoire naturelle, mais aussi à des histoires. Je disais, vous avez également écrit un livre pour la jeunesse, mais plus généralement, comment vous regardez les injonctions écologiques dont on parlait tout à l'heure et leurs effets sur la production de ces histoires aujourd'hui?
Oui, j'ai un petit problème avec ça. Ça ressemble un tout petit peu au capitalisme vert, c'est-à-dire si on garde le même système de production des produits culturels et on change le thème des produits culturels, on en fait des thèmes de la nature. Et en particulier, c'est particulièrement prégnant en littérature, pas dans la littérature pour enfants, mais dans la littérature dite grande littérature, qui, il y a 20 ans, se targuait d'être un monde de clos, qui avait effacé son référent, son auteur, le monde, etc., et qui maintenant, donc il avait plus blanc que blanc, et qui maintenant lave plus vert que vert, se retrouve au monde, devient transitive, s'ouvre à la survie de l'environnement. Moi, j'ai toujours eu un vrai problème avec ça, et l'idée dans Kong Junior, et le troisième effondrement dans Kong Junior, c'est l'effondrement possible de la fiction comme domaine séparé, construction de monde fictif, puisqu'à la fin, peu à peu transparaît la réalité derrière la fiction, c'est-à-dire que la fiction, comme un peu dans les meilleurs romans, et sans du tout la réussite, bien sûr, de l'auteur, mais un peu comme dans les meilleurs romans de Philippe K. Dick, où le monde se désagrège, le monde qu'il construit lui-même se désagrège, à la fin du livre, peu à peu se désagrège la fiction elle-même dans une série de versions qui se démultiplient, au point qu'on arrive à ne plus trop bien... Enfin, on est obligé de se poser le rapport de notre rapport à la fiction, à la réalité. C'est vrai que les fictions dont on se sert pour, par exemple, survivre à des moments de précarité psychique ou de précarité économique, quand on commence à parler avec les morts, à fétichiser des paires de chaussettes laissées par des disparus, ce genre de fiction-là, en fait, pour moi, qui vraiment innerve le monde proche de notre propre destin, c'est complexe, bien sûr, parce que c'est comme demander à la littérature de s'annuler elle-même pour... c'est un peu ce que fait Socrate, d'ailleurs, dans la philosophie. Hein. Il fait de la philosophie... Platon, quoi. Il écrit des dialogues pour défendre l'oralité et pas l'écriture même. En
tout cas, c'est pour un ça problème. Parler de dispositifs tout à l'heure à propos de votre livre. Julien Vitorès, sur cet aspect des choses, sur la part de la fiction dans cette socialisation infantile?
Je me suis pas mal appuyé. Enfin, j'ai noté dans le texte Kong Junior une référence que vous avez remobilisée là à la psychanalyse, aux travaux de Freud. Et moi, je me suis un peu appuyé aussi sur ces textes classiques de Freud, sur les peurs enfantines des animaux, qui justement incarnent des formes de projection d'une peur du père ou d'autres figures dans l'entourage des enfants. Et je trouvais que dans la psychanalyse, justement, aller chercher les expériences limites, les expériences cliniques dans les moments pathologiques, ça pouvait passer à côté de cet ordinaire de la projection, et que dans l'enfance, est en fait justement très présente à partir de la littérature jeunesse, de ses représentations animales dans les dessins animés, et qui, de mon point de vue, sert aussi de support à la construction des identités, en particulier des identités de genre, où on voit bien comment garçons et filles ne s'approprient pas les mêmes personnages. Je serais curieux de savoir, si j'avais mis King Kong, enfin un gorille, dans mon jeu de cartes, de savoir par qui et comment il aurait été approprié comme animal préféré, mais je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Voilà, c'est en tout cas, c'est là que je vois moi un lien autour de cette place des animaux en tant que figure symbolique à partir desquelles on construit, on élabore des identités sociales.
Jean-Christophe Cabalin.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Avec avec cette différence peut-être que dans une perspective freudienne, les animaux, ce sont des projections du grand roman familial des névrosés. En fait, ça pourrait être le contraire. C'est peut-être Pan n'est peut-être pas l'image du père, c'est peut-être le père qui est l'image de Pan dans une réduction bourgeoise de la famille humaine, si vous voulez. Et nos grandes peurs, archétypiques, etc., peuvent être des peurs qui sont liées à notre première rencontre traumatique avec l'environnement, qui aurait justement entraîné toute cette espèce de propitiation, d'artifice, de diplomatie avec les animaux, avec des figures animales, des dieux zoomorphes, etc. D'où, en effet, dans le livre, le caractère, enfin, le fait que les animaux pullulent, en un sens. Il y a tous ces animaux qui, à un moment, dans un moment d'effondrement de Venise, ou de rêve d'effondrement de Venise, parce que Venise est construite sur une forêt de pilotis, et tout d'un coup, le noyau de la terre se réchauffe, et des animaux se fuient, se retrouvent dans les rues de Venise, brûlées. Et c'est bien sûr tout ce qui pourrait ressortir comme contenu inconscient de ce qui avait été refoulé. Mais c'est Aragon qui a cette très belle phrase dans Le Sentiment de la Nature, au but de Chaumont, qui dit « La nature, c'est notre inconscient ».
Merci.
C'est une phrase de Jung.
Jean-Christophe Cavalin, Kong Junior, à la librairie du 21e siècle, aux éditions du Seuil, et Julien Vitorès, « La nature à hauteur d'enfant », aux éditions La Découverte, dans la collection « L'envers des faits ».
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Rubrique actualité pour terminer ce premier épisode de la 27e saison de la suite dans les idées avec un nouveau numéro de la revue française de sociologie. Cette rubrique actualité est en effet le lieu pour faire la place aux revues qui continuent d'être très importantes en dépit de la plateformisation. Elles existent encore en papier, certaines d'entre elles, et ça me semble très très important. C'est la place aussi pour annoncer des colloques. Aujourd'hui donc une revue illustre, la revue française de sociologie, avec en ligne avec nous Patrick Peretti-Vatel, qui a coordonné aux côtés de Nathalie Bajos et de Michel Dubois le dernier numéro dont le dossier est consacré aux effets sociaux de la pandémie de Covid-19. Bonjour Patrick Peretti-Vatel.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Vous êtes sociologue comme je le disais, vous avez co-coordonné ce numéro. Dans un papier introductif, vous faites davantage, avec vos deux co-coordinateurs, vous faites davantage que simplement introduire aux différentes contributions sur lesquelles on va y revenir. Vous pointez des choses à propos de l'impact de cette crise sanitaire, en particulier sur les inégalités sociales, Patrick Peretti-Vatel.
Oui, alors effectivement, en l'occurrence, c'est un. Même si cette crise a été inédite à bien des égards, c'est pas la première crise sanitaire ou autre qui a pu être analysée par les sciences sociales. Et on sait que de façon générale, les crises ont tendance à mettre le doigt où ça fait mal et à accroître, augmenter des fractures, des tensions, des difficultés existantes, et en particulier effectivement à augmenter les inégalités sociales. Et en l'occurrence, enfin là pour le coup, l'exemple le plus simple effectivement, c'est avec le confinement et l'arrêt de la plupart des activités, où effectivement on a eu d'une part une forte aggravation des inégalités sociales en fait qui était liée au statut d'emploi, c'est-à-dire qu'en fait le filet de sauvetage en quelque sorte qui a été mis en place par les autorités protégeait beaucoup mieux les gens en CDI que les gens en emploi précaire par exemple, et donc là il y a eu un accroissement d'inégalités existantes. Et puis aussi avec le confinement en fait on ferme les équipements collectifs, et en fait l'intérêt des équipements collectifs en fait c'est souvent de donner accès à ces équipements à des populations qui n'y ont pas accès normalement. Donc là aussi, on accroît les inégalités sociales. Puis aussi le fait qu'en France en particulier, un domaine dans lequel se cristallisent beaucoup les inégalités, en fait, ce sont les conditions de logement. Et donc si on met tout le monde dans son logement 24 heures sur 24 plutôt que seulement la nuit parce que la journée, ils vont travailler ou étudier, là aussi, ça accroît beaucoup les inégalités sociales. Puis un des derniers aspects et après je vous rends la parole, c'est aussi le fait que du point de vue de l'activité professionnelle, là où pour les cadres c'était beaucoup plus facile de se mettre en télétravail, les gens qui avaient un travail manuel, qui donc déjà au départ sont souvent moins bien protégés et moins bien rémunérés, ont dû davantage continuer à aller au travail avec des effets délétères sur lesquels on reviendra.
Et puis j'ajoute une autre dimension s'agissant des inégalités, et en écho avec le début de l'émission, les inégalités scolaires aussi se sont accrues. On voit les effets sociaux, notamment en termes de santé mentale chez les jeunes, assez clairement mis en évidence aujourd'hui avec le recul qui est le nôtre, Patrick Perretti-Vatel.
Oui, alors en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que c'est la une des dimensions aussi qui nous intéressait, c'était le dans quelle mesure les effets allaient durer ou pas. Et effectivement, donc dans le domaine de la santé mentale, on sait que souvent un événement traumatique, et pour certaines personnes, effectivement, le confinement, notamment le premier confinement, mais il y a eu d'autres événements, ça peut être considéré comme un événement traumatique, et ça peut avoir des conséquences à très long terme, y compris plusieurs mois et plusieurs années plus tard. Et c'est vrai qu'à l'époque, Santé publique France avait mis en place un dispositif pour mesurer la santé mentale des Français, et on a bien vu que cette santé mentale s'est davantage dégradée pour les jeunes, plus en lien avec les conditions de confinement, qu'aujourd'hui la santé mentale des jeunes n'est pas revenue au niveau qui était le sien avant 2020. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forte rémanence des effets délétères sur la santé mentale de ce type d'événement traumatique.
Alors, un autre axe que vous soulignez, mais on va y revenir en parlant des contributions, c'est tout ce qui a trait au travail, à l'emploi, à la formation. Mais il y a deux autres points que vous soulignez dans votre texte introductif. L'un qui me tient particulièrement à cœur, qui est la question de l'information scientifique en particulier, de la désinformation aussi, parce que cette pandémie a été l'occasion d'aggraver ou d'accentuer certaines dérives quant à la manière dont, dans l'espace public, on gérait l'information scientifique. Et je pense qu'à Marseille, vous êtes sociologue à Marseille, vous avez été aux premières loges de cette question avec tout ce qui tourne autour de la personnalité de Didier Raoult que vous pointez dans cette introduction, Patrick Perretti-Vatel.
Alors, sur la question de l'information, d'ailleurs, le directeur général de l'OMS, lui, il a parlé d'infodémie, en disant que ce n'était pas seulement une épidémie, c'était aussi une infodémie. Alors, il faut avoir en tête qu'une infodémie, ce n'est pas une prolifération d'informations farfelues sur les médias sociaux. Dans la notion d'infodémie, il y a plutôt l'idée qu'en situation de crise, on produit énormément d'informations, mais dont le statut est très fragile. Et donc les gens, y compris à la télé ou en lisant le journal, se trouvent confrontés à des informations qui changent tous les jours. Et c'est très difficile de savoir effectivement dans quelle mesure on peut se fier ou pas à ces informations. Et ce qu'on a vu, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a eu des données qui sont sorties qui étaient assez intéressantes, qui essayaient de mesurer l'impact médiatique de la Covid-19. Et je crois que c'est quelque part au mois d'avril, il y a eu un jour où sur la totalité des messages médiatiques qui ont pu être diffusés, il était question de Covid-19 dans la moitié des cas, ce qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on avait pu observer même pour les Gilets jaunes en France un peu auparavant. Donc effectivement, il y a eu une énorme profusion d'informations, une très grosse difficulté à faire le tri, sachant que ce qu'on a vu aussi bien apparaître, c'est quelque chose qui... C'est un rapport aussi à la connaissance qui est en train de changer, mais ça on l'avait déjà vu depuis quelques années, dans le sens où de plus en plus effectivement il y a une redistribution des rôles entre le savant et le profane. Et là où effectivement un savant va publier un article scientifique avec des chiffres dans une revue scientifique pour parler des symptômes éventuels ou des effets secondaires de la vaccination ou des symptômes éventuels d'une maladie chronique, il va y avoir d'autres formes de connaissances qui vont développer sur les médias sociaux avec des malades ou des personnes qui connaissent des malades et qui vont faire part de leur expérience personnelle. Et finalement, cette expérience personnelle, pour beaucoup de gens, elle est plus vraie, plus fiable, plus riche que des données scientifiques.
Alors, on ne va pas avoir le temps d'évoquer toutes les contributions, mais le numéro s'ouvre aussi par un article qui s'appuie sur une enquête très très solide, dites-vous, d'Alexis Raya Poulet, Claire Baudvin et Jean-Paul Godillère, sur cette fameuse stratégie testée, tracée, isolée, en particulier dans la gestion en Île-de-France de cette pandémie. On se rappelle que cette stratégie a été mise en œuvre avant qu'on dispose de la vaccination comme un moyen, j'allais dire bricolé, c'est sans doute bien plus que ça, mais en tous les cas, ça souligne l'importance de l'innovation locale et des praticiens locaux face à une pandémie de cette envergure.
Oui, effectivement, et ça c'est aussi un autre aspect des crises, c'est qu'effectivement les crises accroissent des inégalités, accroissent des difficultés, mais c'est aussi souvent l'occasion de... Il y a un côté stimulation effectivement de l'innovation, et effectivement on voit souvent apparaître des innovations, en particulier au niveau local, sachant que dans le cas de la stratégie testée, tracée, isolée, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien comment... pour mettre en place sa stratégie, il fallait faire interagir des laboratoires qui vont fournir les tests et réaliser les tests, mais aussi la clinique et puis les médecins et puis l'action sociale, parce qu'une fois qu'on a testé, il faut effectivement tracer. Et sachant que ça se déploie au niveau local, mais en devant se plier à des normes nationales avec des décisions ou des normes qui peuvent justement changer du jour au lendemain. Et c'est vrai que là, pour le coup, cette stratégie, elle a échoué, d'abord parce que justement elle s'est développée au niveau local et qu'elle s'est heurtée à une forte centralisation des décisions. Ensuite, parce qu'il y avait aussi des difficultés rémanentes en termes de manque de moyens, en particulier pour la partie tracée. Et puis ensuite parce que effectivement avec la généralisation des tests, en fait, au bout de quelques mois, on n'avait plus la possibilité de tester de la façon dont qu'il fallait faire pour cette stratégie. Donc pour le coup, c'est une stratégie qui a échoué, mais qui est intéressante effectivement parce qu'on voit bien justement comment des acteurs dans l'urgence ont su bricoler. En l'occurrence, je reprends votre terme, mais c'est vraiment le terme qui convient, parce que très souvent effectivement dans des environnements incertains où tout bouge, y compris les normes officielles du jour au lendemain, être capable de bricoler avec les ressources qu'on a dans des situations de pénurie. On l'a bien vu avec les casques de plongée qui devenaient utilisés dans les services. Qui prenait en charge les malades qui avaient des difficultés respiratoires. Donc il y a une partie innovation et bricolage effectivement qui est très forte dans ce type de situation.
Alors l'article suivant, il y a un article sur le droit qui est ce que les chercheurs et chercheuses en l'occurrence appellent le droit pandémique, parce qu'on a véritables nouvelles normes et des manières de les appliquer un peu différentes émerger. Un article d'Émilie Bilan, Cyrine Gardès et Jérôme Pellis qui est assez passionnant. Et puis deux articles qui portent sur le travail, sur les situations de travail, avec d'un côté ceux qu'on appelait les essentiels, en l'occurrence des chauffeurs routiers, et de l'autre des vendeuses non essentielles.
Tout à fait. Alors en l'occurrence, du coup, il y a une gradation, puisque vous vous rappelez qu'à l'époque, dans les discours guerriers qu'on avait à la télé, on nous expliquait effectivement qu'il y avait différentes lignes de front, avec les soignants qui sont évoqués dans le premier article. Le deuxième article, c'est une catégorie un petit peu intermédiaire, parce que elle s'intéresse en fait à des professionnels de l'aide, du CARE, qui viennent d'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, ou l'aide aux personnes âgées dépendantes ou aux personnes handicapées. Donc pour le coup, ce sont pas tout à fait des soignants.
Là, c'est un article de Margot Roisin-Jean-Pierre.
Oui. Ah non, pardon, là, c'est là, je vous parle en fait de celui d'Émilie Bignon.
Ah pardon, le premier dont je parlais, oui, sur le droit.
Voilà,
oui,
effectivement, ce qui est intéressant, en fait, c'est que leur travail, c'est faire le lien avec des populations en difficulté, et c'est aussi leur dire leurs droits, parce que souvent, ce sont des populations en difficulté qui ne connaissent pas leurs droits. Et en fait, avec la pandémie, toutes les mesures visaient justement à distancier, donc c'était l'inverse de leur démarche. Ils devaient continuer à faire du lien, mais en respectant des pratiques de distanciation, ce qui peut paraître paradoxal. Et en plus, comme leur métier, c'est souvent dire leurs droits aux gens, là, pour le coup, il s'agissait de dire le droit pandémique justement aux gens, sachant que ce qui est intéressant aussi, en fait, c'est que ce droit pandémique, du coup, c'était une contrainte, mais c'était aussi une ressource, par exemple, pour mieux discipliner les publics auxquels ils avaient affaire.
Merci ensuite, Patrick Peretti-Vatel, je suis obligé de vous interrompre. Je vous renvoie donc à ce numéro de la Revue Française de Sociologie. On arrive au terme de cette suite dans les idées, à la technique Paul Guigues, à la réalisation Camille Mathy, une émission préparée avec Aurélie Marseille.